violence aujourd'hui, c'est un exercice un peu singulier, parce qu'il n'y a plus pratiquement dans notre univers démocratique, ou vu depuis un univers démocratique, il n'y a pratiquement plus personne pour donner une légitimité forte à la violence. Dans le passé un peu lointain, on pouvait se réclamer de Georges Sorel, parlant de la violence sociale. Dans un passé beaucoup plus proche, on pouvait se réclamer de Jean-Paul Sartre, comme cité tout à l'heure pour d'autres raisons, faisant sa fameuse préface aux années de la Terre de Frantz Fanon. Et il y avait beaucoup d'intellectuels, d'acteurs politiques qui se sentaient concernés par la violence révolutionnaire, par les luttes de libération coloniale, y compris dans leurs dimensions les plus violentes. Aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, non pas complètement terminé, mais très faible. Et ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est vous montrer, en prenant trois ou quatre points importants, à quel point notre regard sur la violence, à moins que ce soit la violence elle-même, ont changé. Autrement dit, à quel point nous réfléchissons autrement, peut-être, mais pas nécessairement, c'est une question que je laisse ouverte, parce que la violence elle-même s'est transformée. Premier point, la violence, celle dont nous parlons ici, on peut appeler politique au sens très très large, hier, dans les années 50, 60, la violence politique avait des finalités politiques. C'est-à-dire que ces objectifs concernaient la vie sur Terre, hic et nunc, que cette violence pouvait être associée à un projet de prise du pouvoir d'État, que cette violence était associée à l'image, chez certains, d'un rôle historique, Hegel, un rôle dans l'histoire. Elle devait amener des changements, mettre en place un autre type de société, mettre fin à l'injustice, aux inégalités, à l'oppression, mais aussi pour d'autres, au désordre. C'est une première chose. Et si cette violence était politique, c'est qu'elle n'était pas religieuse, ou qu'elle l'était très peu. Parfois, on a pu penser qu'il existait un substrat religieux à certaines formes de violence. J'en donne deux exemples. Le premier, c'est celui de ce qui se passait avec l'IRA et les nationalistes irlandais. On a pu dire que c'était en fait aussi un conflit entre catholiques et protestants. On pourrait prendre aussi la question palestinienne et essayer de la lire déjà pour les années 70 et 80 comme un phénomène ayant des dimensions religieuses, mais je trouve que ce ne serait pas très sérieux de dire que la religion était centrale dans le mouvement palestinien. Ensuite, si on considère la violence, deuxième caractéristique, cette violence politique, ou bien elle était internationale, et je pèse les mots, internationale, c'est ce que l'on disait en particulier de la violence qui se réclamait de la cause palestinienne, ou bien elle était, comme disaient à l'époque les Américains, domestique, à l'intérieur d'une société, et dans ce cas-là, elle était d'extrême gauche, je vais très vite, d'extrême droite, ou régionaliste, indépendantiste, du genre basque, si vous voulez, c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays comme l'Espagne, une partie du territoire demande à en sortir. Cette violence pouvait conjuguer d'ailleurs des significations multiples, et par exemple, la violence indépendantiste, nationaliste, de TA ou de l'IRA dans les années 70 avait aussi des connotations d'extrême gauche. Elle avait des connotations marxistes-léninistes, parfois très, très très fortes. Un troisième point, me semble-t-il important, c'est que lorsqu'on réfléchissait à cette violence, la subjectivité personnelle, individuelle, participants ne semblaient pas avoir un rôle ou une place importante. Si je devais utiliser une formule un peu ancienne, les gens s'engageaient pour des lendemains qui chantent. Ils s'engageaient pour une cause, ils s'engageaient à son service, et ce qui allait leur arriver n'avait pas beaucoup d'importance. En tout cas, une chose était claire, ils ne désiraient pas mourir. Les gens qui s'engageaient dans ces violences des années 50, 60, 70, ça n'était pas pour s'autodéfendre. C'était pour participer à la construction d'un monde nouveau. Les acteurs pouvaient consentir des très grands sacrifices personnels, mais leur violence, dans l'ensemble, tout ça mériterait certainement des violences, n'était pas mortifère ni autodestructrice. Enfin, cette violence, elle pouvait avoir des dimensions internationales, je l'ai dit à propos de la question palestinienne, elle pouvait être plus ou moins soutenue par des centres étrangers à l'endroit où elle avait lieu d'un point de vue domestique, intellectuel à l'intérieur duquel il fallait réfléchir quand on voulait analyser la violence était avant tout, pour parler comme Ulrich Beck, relevait avant tout du nationalisme méthodologique. On pensait dans les catégories de l'État-nation, et le prolongement des catégories de l'État-nation, c'est l'idée de relations internationales. Alors, j'y suis allé à grand coup de serre, mais voilà en gros ce qu'était la violence quand on essayait de l'analyser dans les années 60 ou 70, la violence que j'appelle politique. Aujourd'hui, c'est très différent. Premièrement, la violence, je l'ai dit, n'a plus les soutiens qu'elle pouvait avoir, et surtout, premier point, la violence est devenue religieuse. Pas partout, pas toujours, bien entendu. Mais enfin, quand même, je n'ai pas besoin de dire ça ici, où j'ai entendu ce matin beaucoup parler de l'islamisme, mais enfin, la révolution est devenue religieuse. Je me souviens du premier grand livre que j'ai lu sur la révolution iranienne, le titre était « Qu'est-ce qu'une révolution religieuse ?» Bon, la violence en Iran, la violence ensuite en Algérie, la retombée des mouvements du printemps arabe, à l'exception de Bachar Tunisie, mais quand même, tous ces mouvements, lorsqu'ils passent à la violence, lorsqu'ils sont violents, relèvent d'une manière ou d'une autre de la religion. C'est vrai aussi pour certains nationalismes. Vous avez des nationalistes qui deviennent, qui se chargent, qui apparaissent sous une forme religieuse, éventuellement messianique. Le mouvement tchétchène a des dimensions musulmanes, pas seulement nationales. Israël, j'étais très impressionné, mais enfin en Israël, où il y a des violences d'extrême droite, des violences de colons, des choses comme ça, il n'y a pas que ça bien sûr, mais cette violence d'extrême droite, c'est un sionisme messianique qui la met en œuvre et qui va assassiner Rabin et autres. On pourrait même, mais ça nous éloignerait du sens de cette réunion, mais j'aimerais le dire maintenant. On pourrait même poser une ou deux grandes questions sur le fait que nous avons vécu une certaine période dans laquelle la violence politique et la religion semblaient se séparer ou se dissocier. Est-ce que cette période n'est pas en réalité un court moment dans l'histoire de l'Occident? Est-ce qu'après tout, la violence, la guerre et les grandes violences politiques n'ont pas presque toujours, depuis des siècles et des siècles, été chargées de religion en dehors, je dirais, de l'héritage de la Révolution française et des Lumières? Et donc, je pense que nous devons aussi réfléchir à ça, parce que si la violence aujourd'hui est de plus en plus religieuse, est-ce que la sortie de la violence peut être pensée en dehors de la religion? Je n'ai pas la réponse, mais on parle de déradicalisation, etc. Mais enfin, si la religion est au cœur des processus qui nous rapprochent, alors la sortie de la violence, on pourrait la penser comme ça, en se centrant, j'ai entendu des choses très intéressantes sur la famille, sur des choses qui ne sont pas nécessairement religieuses. Et je trouve que ça nous interpelle, je l'indique de façon très, très problématique. Un deuxième point sur lequel je voudrais insister dans ce qui est nouveau, sinon dans la violence, ou moins dans notre regard sur la violence, c'est la place de l'individualisme. Et là, je vais le dire très très vite, je crois que cette place doit être envisagée en suivant deux axes assez différents. Le premier axe, c'est l'idée que l'individualisme pousse à des calculs qui peuvent devenir étranges. Et qu'il y a, en particulier, dans la violence politique aujourd'hui, des calculs économiques qui la transforment. L'individualisme, le désir d'avoir de l'argent, le désir de mieux vivre, le désir de consommer, le désir d'accéder aux fruits de la modernité, ça pousse au crime organisé, à la délinquance plus classique. Et donc, il me semble qu'il y a quelques liens entre la poussée de l'individualisme dans ses dimensions qu'on pourrait appeler économiques ou instrumentales, et ces phénomènes qu'on observe partout, de transition, d'articulation entre la violence politique et le crime. On le voit évidemment en Amérique latine, c'est pour ça que j'évoquais la Colombie il y a un instant. Les FARC, on ne comprend pas comment elles se sont maintenues jusqu'ici, si on n'a aucune idée de ce qu'est le trafic de stupéfiants depuis ou à partir ou à travers la Colombie, vers les États-Unis entre autres. Mais regardez Daesh, tout ce qu'on nous a dit sur le pétrole, tout ce qu'on nous a dit sur le trafic d'antiquité, ce genre de choses. Bon. Et ça, c'est une première chose. Deuxièmement, cette poussée de l'individualisme, elle se traduit par autre chose qui est une subjectivité individuelle exacerbée. Et là, on est dans des logiques où la subjectivité individuelle exacerbée, on peut le dire certainement beaucoup mieux que dans le vocabulaire que j'utilise, elle pousse à se donner la mort, le martyrisme, en tout cas il y contribue, je pense. Le martyr, c'est celui qui veut passer dans l'au-delà, pas seulement par des calculs instrumentaux, mais ou économiques, mais aussi pour un certain nombre de raisons. Je vais faire être sur capable d'expliquer beaucoup mieux que moi. Cet individualisme ou ces dimensions de subjectivité exacerbée, ça peut prendre aussi l'allure de se mettre en avant, être une sorte de héros. J'avais été très impressionné quand j'avais vu Mohamed Merah, ce jeune garçon qui avait tué les militaires, puis trois enfants juifs et leurs enseignants, en 2012, il se baladait avec une caméra GoPro. Il fallait qu'on voie ses exploits. Il se mettait en scène. Et donc, il me semble qu'il y a dans la violence aujourd'hui, ou dans le regard que nous portons sur la violence, d'un côté de l'individualisme, disons instrumental, économique, assez classique, qui pousse à la criminalité, et donc à des formes infra-politiques de violence, et de la subjectivité extrême, exacerbée, et ce qu'on vient d'entendre dire il y a un instant, il renvoie très directement, qui pousse à ce que la violence prenne un caractère, si j'ose dire, méta ou suprapolitique, qu'elle ne s'installe pas seulement au niveau politique, que la violence politique éclate en quelque sorte d'un côté vers l'instrumentalité et d'un autre côté vers la subjectivité des individus. Alors, on pourrait compliquer évidemment ce raisonnement, mais je crois qu'il faut avoir ces questions-là en tête si l'on veut réfléchir utilement à la sortie de la violence. Le troisième point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est qu'autant on pouvait analyser assez classiquement dans les catégories du nationalisme méthodologique, dans les catégories de l'État-nation, si vous préférez, la violence dans les années 50, 60, 70, en complétant cette analyse au sein de l'État-nation par une analyse internationale, autant aujourd'hui il faut réfléchir autrement. Moi, on peut utiliser toutes sortes d'expressions pour dire ça. Moi, j'aime bien dire qu'il faut penser global, c'est-à-dire analyser différents niveaux d'action de général jusqu'au plus individuel. Ulrich Beck, que je citais sans le nommer à propos du nationalisme méthodologique, nous disait qu'il fallait penser de manière cosmopolite. La cosmopolitisation du monde, c'est l'idée qu'on comprend mieux les problèmes que l'on vit même très localement si on prend en compte différents niveaux, y compris le niveau donc, le plus général, le plus global. Et donc, je crois que c'est peut-être très très important, mais on ne peut plus se contenter de réfléchir dans les catégories de l'État-nation. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe seulement. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de frontières, ça ne veut pas dire que les gens ne se pensent pas à l'intérieur d'un État-nation. Enfin, on sait tous très bien, tous les problèmes qui sont évoqués ici, le monde, que la réflexion doit circuler en permanence entre le dedans et le dehors, entre les problèmes internes à une société et les problèmes plus globaux. Et donc, il me semble qu'il y a là donc à réfléchir autrement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais mettre sur la table. Le deuxième point que je voulais mettre sur la table ce matin, c'est de vous faire quelques remarques sur la sortie de la violence. Premièrement, je suis frappé du fait que c'est assez évident, je pense, mais c'est pas parce que la violence s'arrête concrètement à un moment donné que l'on en a fini avec elle. Que, d'abord parce que souvent, pendant les phases d'interruption, les acteurs reprennent des forces, se reconstituent leur capacité d'action, ou bien encore que d'autres formes de violence que celles dans lesquelles ces acteurs étaient engagés apparaissent. Bref, la sortie de la violence, c'est pas l'interruption définitive de la violence. Et pour y réfléchir, je pense qu'il faut distinguer des temporalités et des niveaux. Des temporalités, je pense que nous sommes dans un monde où il faut réfléchir en permanence sur l'immédiat, le très court terme. Alors nous explique la protection, la police, les services de renseignement, ces choses-là. Et où en même temps, nous sentons bien que les questions qui nous occupent ont une forte, une grande épaisseur historique. C'est des questions qui ne datent pas du jour même. Et donc, il me semble que réfléchir à la sortie de la violence, c'est se demander qu'est-ce que l'on fait selon, selon les temporalités qui peuvent aller donc du plus court, du plus immédiat, jusqu'au plus long. J'en donne un exemple. Il y a un chercheur américain, un sociologue très respecté, Randall Collins, qui nous dit qu'il faut étudier la violence dans les interactions à travers lesquelles elle se produit. Donc, la violence, elle est le fruit d'interactions immédiates entre des personnes ou des groupes. C'est très intéressant, il faut le faire, bien entendu. Mais ça ne m'expliquera évidemment pas pourquoi, sur le long terme, se sont constitués des acteurs qui, un beau jour, vont passer à la violence. Et donc, le type de réflexion sera différent. Et j'ai envie de dire ceci, qui est un peu simpliste. Plus on est sur le court terme et sur l'actualité, plus l'analyse envisage les modalités immédiates, concrètes de la violence, les acteurs concrets de la violence. Et donc là, c'est, j'ai envie de dire, priorité à la police, à l'armée et peut-être à certains types d'expertise. Et plus on s'éloigne dans le temps, plus on accepte de dire qu'il y a une longue distance, une épaisseur historique de ces phénomènes, plus on s'éloigne de la compréhension directe, immédiate, de l'analyse directe, immédiate de tel ou tel épisode pour étudier des processus sociaux, des dimensions religieuses, etc., qui ne collent pas à l'actualité. Et donc, nous sommes dans un espace intellectuel où nous devons apprendre tous, et c'est l'effort que j'essaie de faire, à circuler entre l'analyse de l'actualité, ou du très court terme, et l'analyse du très long terme, en sachant que c'est des regards très différents. J'ai mis longtemps à bien comprendre ça, mais je l'ai compris à partir de mon expérience de chercheur sur les terroristes. Pendant 10 ans, en France, j'ai dû être à peu près le seul, peut-être un ou deux, qui travaillaient sur le terrorisme. Et j'étais frappé d'une chose, quand il ne se passait rien, il n'y avait pas de terrorisme, mon travail n'intéressait personne, ok, bah oui, il ne passait rien. Mais quand il se passait des choses, il n'intéressait pas non plus grand monde. Pourquoi? Parce qu'à chaud, on voulait savoir qui a agi, où est-ce que la prochaine bombe va exploser, quelles sont exactement les relations entre tel groupe et tel groupe, etc. Chose qui ne m'intéressait pas vraiment. Et donc, le chercheur qui voulait prendre de la distance, c'était un peu mon cas, mais il était bien ennuyé. Parce que quand il prenait de la distance, c'était dans des moments où ses préoccupations étaient totalement extérieures au débat public. Et quand c'était à chaud, ses préoccupations n'étaient pas dans le coup, parce qu'il ne savait pas étudier l'actualité. Et donc je crois qu'il faut savoir circuler comme ça dans le temps, hein, et que ce n'est pas les mêmes registres, ce n'est pas les mêmes outils d'analyse, ce n'est pas les mêmes préoccupations. Le deuxième point, c'est peut-être le plus important de ce que je voudrais vous dire, je vais le dire à partir de statistiques que j'emprunte à un de nos amis, qui fait déjà partie de notre panel, Peter Wallenstein, que certains d'entre vous connaissez, qui est un chercheur suédois remarquable sur tout ce qui est post-conflit, conflict resolution, et ces choses-là, mais il fonctionne en chercheur et pas en expert. Et je l'ai entendu présenter il n'y a pas très longtemps des statistiques. Alors je les résume, vous allez tout de suite comprendre. Il a étudié la façon dont se sont terminés les conflits armés les plus importants à l'échelle de la planète depuis les années assez loin, peut-être, mais surtout à partir des années de 1980-2000. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Ou bien ces épisodes de conflits armés se terminent par la victoire d'un des camps sur l'autre, par exemple de l'État sur un groupe armé, sur une guérilla haute, ou bien ils se terminent par un accord de paix qui a été négociation. Voilà les deux modalités principales que distingue Wallenstein. Alors, s'il s'agit d'une victoire, eh bien, dans les années 80, le pourcentage de retour de la violence dans les 10 ans qui suivent est de 17. Donc sur 100 expériences de violence armée, vous en avez 17 qui rebondissent en quelque sorte dans les années qui suivent. Mais quand on est dans les années 2000, vous en avez 40. Cela veut dire, autrement dit, que la guérison, je vais le dire comme ça, la guérison ne vaut que pour 40% des dossiers. Les autres retombent. Que 60%. 60% des dossiers, la violence ne repart pas, mais 40% elle repart. étudié le même, la même question sur les, les relations, sur ce qui se joue quand la paix est négociée. Dans les années 90, la violence était réglée de façon un peu durable à 21% à l'issue d'une paix négociée. C'est pas beaucoup. Mais, dans les années 2000, 80% des cas qu'il étudie, qui est recensé, se terminent par un non-retour de la violence. Autrement dit, les statistiques que je suis en train de vous donner, je les résume, la victoire d'un camp sur un autre, peu importe lequel, se solde de moins en moins par une paix durable. La négociation, la paix discutée entre acteurs, aboutit de plus en plus à une paix durable. Voilà en gros la démonstration statistique. Alors, c'est ce que... Et cette paix durable, c'est ce que Valenciennes appelle une paix de qualité. Donc vous voyez, il y a un premier point clair. C'est un point hyper, hyper important, parce que ça veut dire une chose. La négociation n'est pas simplement la fin de la violence, elle est ce qui lui permet d'être durable. La négociation, la discussion, la rencontre, etc. Et donc, pour moi, il y a là quelque chose de très, très important. C'était ça le point le plus important. Je crois que nous devons savoir que ça n'est pas la force, l'usage de la force et donc la victoire pure qui règle les questions. Ça, c'est un point. Un autre point important que je voudrais juste évoquer. Si on accepte de raisonner pas seulement en termes de niveaux différents de temporalité, mais aussi de niveaux de problèmes différents, depuis de ce qui est le plus individuel jusqu'à ce qui est le plus général, alors on s'aperçoit que les choses se règlent bien lorsque tous les niveaux sont traités de manière cohérente. Si par exemple vous donnez satisfaction à des groupes, mais pas aux individus, parce que vous avez préféré la paix à la justice, vous risquez d'avoir une paix qui ne sera pas durable. Si la mémoire des communautés, par exemple, qui ont été détruites dans une expérience de violence, n'est pas reconnue, même si on reconnaît la mémoire des individus, d'une forme ou sous une autre, le résultat ne sera pas satisfaisant. Et donc, je pense que les réussites de sortie de la violence sont celles où ce traitement, plutôt négocié, comme certains vous le dire, permettent d'articuler des éléments constructifs à tous les niveaux, depuis ce qui concerne les individus qui ont été traumatisés, qui ont été spoliés, qui ont perdu leurs proches, etc., jusqu'à la collectivité nationale qui a pu être affectée. Alors, ce sont des choses importantes, et je voudrais terminer sur un point. On dit souvent, c'est une expression que je critique beaucoup, que ce qui est important, c'est de passer au post-conflit. C'est une expression que les experts en particulier aiment bien. Moi, je pense qu'il faut réfléchir tout à fait autrement. Si tout ce que je viens de vous dire a une certaine pertinence, je crois qu'il faut accepter l'idée que ce qui est important, c'est de passer de la situation où il y a violence, on peut dire crise et violence, à une situation non pas harmonieuse de post-conflit, mais une situation de débat et de, excusez mon jargon, conflit institutionnalisé. C'est-à-dire, l'important n'est pas du tout de rêver à une société harmonieuse, ce qui vous parle de l'unité de la nation, ce qui vous parle de lien social même, cela ne voit pas qu'une société est nécessairement divisée et que le problème, ça n'est pas tant d'assurer l'annulation du conflit, en quelque sorte, mais que ce qui est beaucoup plus important, c'est de le traiter de manière négociée, quelle qu'en soit la nature, de façon à ce qu'il puisse être institutionnalisé et donc à ce qu'on puisse revenir à la politique. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de choses qui sont pas seulement préoccupantes ici, mais qui sont préoccupantes un peu partout dans le monde. L'expérience de la négociation actuelle en Colombie avec les FARC est passionnante de ce point de vue-là, car cette négociation, elle porte justement sur un de ces gros dossiers, c'est de savoir s'il est possible ou pas de laisser des acteurs de la lutte armée se transformer en acteurs politiques, donc en acteurs non violents. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Je crois vraiment que nous avons intérêt à poser ce genre de questions. Je n'ai pas essayé d'apporter des réponses, j'ai voulu plutôt poser des questions. Celles-là, on peut en ajouter évidemment beaucoup d'autres, parce que sinon, nous perdons ce qui fait, me semble-t-il, le sel d'une rencontre comme celle-ci. C'est-à-dire le fait que des gens qui viennent d'horizons différents, de pays, qui s'intéressent à des pays différents, ont beaucoup de choses à discuter, et qui pensent qu'il faut.